J'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Eh, monte le son.
Aucun de nos corps ne se ressemble. Nous avons tous nos particularités, notre histoire. Et malheureusement, nos origines, notre genre, notre handicap, notre corpulence, nos marques entraînent chez certains des discriminations, des oppressions. Aucun de nos corps ne se ressemble et pourtant la société a érigé l'idée d'un corps idéal, surreprésenté, qui isole et invisibilise tous les autres. Aujourd'hui, on va en parler de ce corps et de sa place dans la société puisque mon invitée d'aujourd'hui est Marine Goyer, artiste à l'origine du projet Semeuse que l'on écoute dans quelques secondes dans le grand entretien du vendredi. Amis auditeuristes, bienvenue dans cette agité du local. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de la semaine et je vous garantis un moment riche et puissant dans cette émission qui se terminera évidemment par l'agenda culturel. Mais sans plus tarder, je me tourne vers notre invitée du jour. Bonjour Marine, tu es une artiste, tu réalises le portrait de personnes dont le corps est invisibilisé ou discriminé dans la société. Pour ça, tu as créé le projet Semeuse, on peut voir ton travail notamment sur Instagram et à Laval actuellement à la librairie Amelier, on va en parler tout de suite. La semaine dernière, le jeudi 15 février, tu as tenu une conférence sur la place du corps dans la société, justement dans la librairie. Et on peut le dire, on était nombreux à Amelier pour t'écouter et en fait le sujet de cette conférence fait finalement totalement écho à ton projet. Et justement, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer le projet Semeuse, qu'est-ce que c'est ?
Oui, bonjour. Alors, effectivement, le projet Semeuse, c'est un projet que j'ai commencé il y a 7 ans, donc il a beaucoup évolué. Mais maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je propose à tous ceux qui le souhaitent, donc des hommes, des femmes, de les dessiner et de poster, en fait, sur mes réseaux sociaux, mais aussi en exposant, leurs portraits, donc dessinés. Habillés. Bon, après, il y en a certains qui préfèrent effectivement être déshabillés. Puis des fois, c'est forcément, il y a un lien avec, leur histoire. Et du coup, je montre ces corps, en fait, pour montrer les corps de la vraie vie et surtout pour visibiliser, en fait, surtout les personnes qui vivent des discriminations ou des oppressions. Parce qu'en fait, en plus de ces dessins, les personnes, elles peuvent témoigner à l'écrit. Donc, généralement, à côté du dessin, il y a aussi le témoignage de la personne sur quelque chose qu'elle a vécu. Et il faut savoir maintenant, depuis 3 ans, sur Instagram, on a aussi des témoignages sans dessin. Donc, c'est vraiment comme ça, ouvert à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de m'envoyer une photo, hein, parce que je dessine d'après photo, de son corps. Et puis, des fois, le sujet se prête pas, on n'a pas besoin aussi forcément de se montrer. Mais voilà, si on a envie de raconter quelque chose qui est important pour nous, pour libérer la parole sur ce sujet, eh ben c'est possible avec mon projet. Voilà.
Tes dessins sont des portraits, on le disait tout à l'heure, des représentations de corps très souvent accompagnés de témoignages ou même des témoignages seuls. Et ces histoires finalement font écho aussi à la tienne. C'est un peu le début de ta conférence. Tu parles de l'évolution de ton rapport au corps en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste, parce que tu as commencé par représenter des corps plutôt athlétiques au tout début.
Oui, alors en fait, il faut savoir que quand j'ai commencé ce projet, j'étais très très mal dans ma tête et dans mon corps. En fait, j'avais un trouble du comportement alimentaire. C'est une maladie, hein, c'est un trouble. Et en fait, j'étais obsédée. Moi, c'était plutôt de l'orthorexie. Bon, c'est un trouble dont on ne parle pas encore beaucoup, mais en gros, j'étais obsédée par le fait d'être en bonne santé. Et en fait, du coup, pour moi, j'étais persuadée qu'être en bonne santé, c'était être mince. C'était faire tant d'heures de sport par semaine et de me limiter à un nombre de calories et en essayant de manger effectivement sainement. Et j'étais obsédée en fait par ce que je mangeais, j'étais obsédée par l'image de mon corps. Du coup, quand j'ai commencé le projet, en fait, je dessinais ces gens-là aussi qui pour moi, je pensais, avaient réussi en fait à atteindre ce but ultime d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est ce que je dessinais au début. Après, très vite, je me suis rendu compte que pas tous, mais qu'une partie de ces gens-là, même la plupart de ces gens-là, en fait, souvent se dépréciaient, n'étaient pas forcément bien dans leur tête et dans leur corps, et que certains aussi, en fait, avaient des troubles du comportement alimentaire ou guérissaient de troubles du comportement alimentaire et de mauvaise estime de soi. Donc, effectivement, dans ma conférence, en fait, pour moi, c'est important d'en parler. D'expliquer un peu le cheminement, pourquoi maintenant effectivement mon travail est beaucoup plus politique qu'avant, mais en fait parce que je me suis rendu compte aussi que parler du corps et parler de l'intime, c'est politique. Lutter contre justement l'invisibilisation de certains troubles ou de choses qu'on peut vivre comme des discriminations, voilà. Enfin, c'est important d'en parler et c'est politique. lutter contre la grossophobie, lutter contre le racisme, lutter contre le validisme, donc les personnes handicapées hein, qui vont souffrir justement du fait bah, que, ben, parce que les personnes handicapées peuvent subir pas mal de choses au quotidien, parce que bah, l'espace n'est pas forcément adapté pour elles. C'est des choses qui sont importantes et en fait, tout part du corps finalement. Et oui, donc il y a eu un énorme cheminement et c'est vrai que finalement pour moi c'était vraiment important de commencer cette conférence et de partir de moi. Voilà, parce que souvent hein, en tant qu'artiste, nos projets, bah en fait ils parlent un peu de ce qu'on a vécu ou des choses que nos proches ont vécues. Et là oui, moi clairement, ce projet il parle de moi, de ce que je vivais à ce moment-là en 2017.
Ce que je vois de ton parcours, c'est que finalement, c'est aussi un peu le nôtre sur notre manière de poser notre regard plus facilement sur certains corps, notre façon d'aimer les corps à partir de ce que la société nous renvoie. Cette société, on n'y échappe pas. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'il faut réapprendre, regarder notre corps, mais aussi celui des autres autrement? Est-ce que c'est quelque chose de facile, Marine?
Alors non, c'est vrai que quand on voit mon projet et quand ma conférence a duré 1h15, je raconte 7 ans... 7 ans de ma vie comme si c'était hyper simple, mais et pas du tout en fait. Non. Effectivement, travailler sur l'estime de soi ou apprendre à ne plus juger les personnes parce qu'elles sont physiquement aussi, bah, ou parce qu'elles disent, c'est compliqué. Et non, c'est pas simple. Donc je pense aussi qu'il ne faut pas se flageller en fait, de ne pas arriver à enlever tous ces jugements négatifs qu'on peut avoir sur soi. Enfin, moi, mon projet, même si je montre des corps, effectivement, peut-être que ça peut aider des gens à apprendre à s'accepter ou à décomplexer. C'est pas le but premier. En fait, c'est aussi OK de pas aimer son corps. C'est aussi OK de pas accepter la situation dans laquelle on est. Parce que je pense que ça, c'est hyper important parce que moi, c'est quelque chose où j'étais bloquée au début, où en fait, je remplaçais des injonctions par d'autres injonctions finalement à m'accepter à tout prix et ça marche pas. Je pense. Enfin voilà, après peut-être que dans quelques années j'évoluerai encore et je dirais que non, c'est j'ai faux. Mais moi je pense qu'effectivement il faut aussi lâcher du lest par rapport à ça et être ok, oui, avec le fait que on n'aime pas tout chez soi. Enfin moi personnellement c'est ce qui m'a permis d'avancer et d'apprendre à m'aimer de manière inconditionnelle. Oui, il y a des traits de caractère que je n'aime pas chez moi. Oui, il y a des parties de mon corps que je n'aime pas chez moi. Et c'est OK, en fait, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, une personne moins valable. Voilà, et ça m'a permis d'avancer et aussi, moi-même, de moins juger parce que, hein, faut pas se leurrer, si au début j'ai fait ce projet, c'est parce que moi aussi, je me suis rendu compte que je jugeais les gens, en fait. Voilà, parce qu'on est dans une société où malheureusement, bah, on juge, enfin, dans les médias, à la radio, à la télé, dans les séries, il y a beaucoup de choses comme ça où on juge les gens par leur apparence. Et c'est un mot en anglais, ça s'appelle le body shaming. En français, on peut le traduire par la honte corporelle. Mais en fait, on l'entend tout le temps, même souvent sous couvert de blagues. Beaucoup d'humoristes le font. Alors, OK, mais il faut savoir que bah, ça peut avoir un impact vraiment dans l'estime que l'on a de soi.
Justement, quand tu parles de ça, ça me fait penser à quelque chose dont tu as parlé lors de ta conférence, c'est le body positive. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui énormément sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et tu disais que le body positive, finalement, c'est de nouveau une injonction.
Oui, alors, en fait, ce que j'explique dans ma conférence, c'est que le mouvement body positive, c'est quelque chose qui est arrivé aux États-Unis dans les années 1960 et en fait qui a été, je vais faire très rapide, hein, donc si on veut en savoir un peu plus, bah, je vous invite à venir à ma prochaine conférence. Mais en fait, en gros, le body positive, comme on l'entend en France maintenant, il a été, tout ce qui est politique et militant a été enlevé. Effectivement, on l'a traduit un peu par « il faut apprendre à s'aimer et à s'accepter ». Et en fait, alors qu'à la base, ce type de mouvement, c'était monté par des personnes, justement, qui réclamaient des droits, des personnes grosses, des personnes souvent aussi noires, racisées, ou des personnes handies, ou même de la communauté LGBT, de dire, en fait, bah, on existe, et nous aussi, on a le droit, bah, par exemple, quand on est gros, bah, de pouvoir s'habiller. Parce qu'il faut savoir hein, que c'est très difficile pour les personnes grosses, de s'habiller. Hein, on le sait, hein, dans les magasins, à partir du 46, des fois même du 44, bah il y a pas hein, dans certaines grandes chaînes de magasins, on ne peut pas s'habiller ou alors il faut commander et puis c'est pas forcément adapté aux morphologies ou c'est pas forcément bah des fois c'est des lignes de vêtements aussi qui sont pas du tout par exemple liées à la mode quoi, comme si les personnes grosses ne pouvaient pas être à la mode, voilà, enfin c'est c'est discriminant dans le sens où on ne peut pas s'habiller, où il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas s'asseoir simplement dans les lieux publics. Donc là, je pense encore aux personnes grosses, mais aussi aux personnes handies. C'est pareil, les personnes handies, c'est pas forcément que des personnes où ça se voit, c'est pas forcément une personne en fauteuil roulant. 80% des personnes handicapées en France sont des personnes qui ont un handicap invisible. Et en fait, l'espace n'est pas adapté. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, le body positive, à la base, c'était de montrer ces corps qui ne sont pas dans les normes, mais en fait, de dire que bah, ils sont légitimes et qu'ils ont droit, que ces personnes-là ont le droit de pouvoir se déplacer dans l'espace public sans être jugées ou justement, mais pouvoir accéder aussi à l'espace public, pouvoir s'habiller, pouvoir aller chez le médecin, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de personnes, par exemple, grosses, qui ne peuvent pas, les tensiomètres sont trop petits, ou les tables aussi, en fait, ne supportent pas leur poids, et je ne parle même pas des scanners. Et ça touche quand même un pourcentage de la population qui est quand même important. Voilà. Et de lutter aussi contre ce fait de se dire oui, mais en même temps, les personnes grosses, elles l'ont choisi. On choisit, il suffit de moins manger, il suffit de faire un régime, de faire du sport. Mais en fait, il faut savoir que la plupart du temps, les personnes grosses, en fait, déjà, on ne choisit pas, personne ne choisit son corps, personne ne choisit son poids, et que les personnes grosses, en fait, elles font un travail derrière. Et en fait, on ne choisit pas, on le sait maintenant, il y a des études qui montrent que c'est lié à la génétique, par exemple, ou que c'est un symptôme de maladie. C'est pas la grosseur qui entraîne des fois des maladies, c'est ces maladies-là qui entraînent la grosseur. Et en fait, c'était ça, à la base, le mouvement body positive, c'était de montrer tout ça, et pour avoir un monde un peu plus juste, en fait, pour ces personnes-là qui ne correspondent pas aux normes.
Et pour évoquer un dernier point que tu abordes lors de la conférence, évidemment, on ne va pas faire le tour de tout ce que tu expliques, puisqu'on invite plutôt nos auditrices à se rendre à ta prochaine conférence. On en parlera tout à l'heure, ça arrive très bientôt. Je voulais revenir sur un point que tu nous présentes, c'est le schéma d'une cour de récréation qui montre comment cet espace est occupé entre filles et garçons, donc dès le plus jeune âge. Et là aussi, ça raconte quelque chose d'important. Ces codes, finalement, on les assimile très tôt.
Oui, alors totalement, oui, c'est vrai que quand je parle effectivement, par exemple, du sexisme, alors attention, hein, je dis pas que tous les petits gars qui sont à l'école sont sexistes, non, puis on peut être une fille et être sexiste aussi. Hein.
Exactement.
ce que je raconte, en fait, c'est qu'effectivement, les espaces sont genrés et inconsciemment, on les reproduit. Et dans les cours d'école, il y a eu, en fait, c'est une géographe du genre qui s'appelle... j'ai oublié son prénom, désolée, mais c'est Madame Marie-Joule, et en fait, Edith Marie-Joule, pardon, qui en fait travaille dessus, et elle est dans plein d'écoles primaires, et des collèges aussi, et en fait, quand on fait dessiner les cours de récréation aux enfants, et qu'on met un F pour fille et un G pour garçon, on se rend compte qu'effectivement, les garçons, ils prennent partout l'espace. Et c'est pas une mauvaise volonté de leur part, c'est juste que voilà, c'est quelque chose qui est perpétué, qui dure depuis des années. On se dit, c'est normal, les garçons font du sport et les filles, non, elles doivent pas prendre trop de place et elles doivent ne pas salir, ne pas faire du sport. De toute façon, elles sont moins fortes que les garçons et elles doivent être à côté. Et en fait, c'est des choses qui, même si on a une éducation, on le voit aussi, des parents qui font tout pour avoir une éducation non-genrée, malheureusement, dans notre société, c'est encore le cas. Et en fait, inconsciemment, on projette toutes ces petites choses de stéréotypes de genre. Rien que les couleurs, par exemple. C'est vrai que même dans les magasins, c'est pas facile, par exemple, dans du prêt-à-porter, de trouver des choses qui ne sont pas roses pour les filles ou bleues pour les garçons. Voilà. Et c'est toutes ces petites choses qui font que, malheureusement, nous-mêmes, on va se mettre dans des cases et on le voit très jeune, dès l'école primaire.
Marine, je propose qu'on fasse maintenant une petite pause musicale. On se retrouve tout à l'heure pour parler plus précisément du projet Semeuse en lui-même. On écoute Bonhomme de MPL.
Fallait voir un peu les modèles qu'on nous proposait. On serait des bonhommes, on serait des durs. On en ferait des tonnes pour être bien sûr qu'on serait des bonhommes. Ouais, qu'on serait des bonhommes. ferait des bonhommes. Lala, enfin devenu grand. Lala, on parlait très fort. Lala, on dérangeait les gens. On comprenait pas encore. On arrivait toujours en nombre. Ça nous réchauffait, ça nous réchauffait. On ne voyait pas que nos ombres. Ça les étouffait. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes. La la la. Oh la la. Chaque jour, la tendresse nous aide à les oublier. Si on est vraiment des bonhommes, on peut bien pleurer, c'est beau de pleurer. Nos nouveaux modèles se questionnent, à nous d'essayer. On sera des bonhommes sans jouer les durs. Et si ça vous étonne ou ça nous rassure, on sera bien conscient de nos privilèges. Ils donneront de l'élan pour éviter les pièges. On sera des bonhommes sans jouer les durs. Et si ça vous étonne, nous ça nous rassure. On sera des bonhommes. On sera des bonhommes. La la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la.
Nous sommes de retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Nous sommes aujourd'hui dans le grand entretien en compagnie de Marine Goyer du projet Semeuse. On a abordé tout à l'heure la conférence que tu as tenue le 15 février à la librairie Aime-Lire sur la place du corps dans la société. J'ai envie de revenir maintenant plus précisément sur le projet Semeuse en lui-même. Et je me suis posé une question concernant les personnes qui se tournent vers toi pour que tu réalises leur portrait. Est-ce que tu penses que c'est un premier pas peut-être pour eux aussi dans leur propre parcours pour aller vers un rapport à leur propre corps peut-être plus serein ?
Oui, c'est possible effectivement. Moi, même si mon projet, je ne le prône plus, si les personnes elles s'en servent pour ça, c'est très très bien, bien sûr. Effectivement, après moi, je ne suis pas psychologue, hein. Je ne suis pas professionnelle de santé, mais c'est vrai que je vois que souvent, les gens qui se livrent, soit ont déjà commencé un travail thérapeutique derrière ou s'apprêtent à le faire. Effectivement, parce que il faut savoir voilà que bon, des fois on n'est pas forcément on n'est pas forcément discriminé, mais on est tous complexés, on a tous vécu du body shaming, hein, la honte corporelle, on a tous été moqués au moins une fois dans notre vie par notre physique ou par des traits de caractère qu'on a, être bavard ou bavarde, voilà, ça peut être un bégaiement aussi, ça peut être une façon de penser, une façon de s'exprimer, bon voilà, il y a tout ce qui est lié au corporel. On est tous touchés par ça et effectivement, oui, je pense que mon projet bah, peut aider parce qu'en plus, bon, moi, je ne le fais pas payer, hein, c'est gratuit, c'est un projet totalement bénévole et en fait, les gens peuvent le faire gratuitement. Du coup, ça permet en fait qu'il n'y ait pas, voilà, qu'il n'y ait pas de barrière par rapport à ça. Et voilà, on m'envoie une photo et bon, après, malheureusement, je ne peux pas dessiner tout le monde, donc j'essaie moi de montrer la plus grande diversité. Donc voilà, je préviens si je dessine la personne ou pas. Et effectivement, quand je la dessine, après, la personne, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui s'en servent après pour quand ils vont voir leur rendez-vous avec leur psy ou des personnes, par exemple, qui ont un trouble du comportement alimentaire et qui sont suivies par des nutritionnistes, des diététiciens, des diététiciennes formées au trouble du comportement alimentaire, peuvent travailler dessus, effectivement, parce que ça peut réveiller des choses. Parce qu'on le sait, c'est difficile de se représenter déjà à soi-même et les gens ne voient pas la même chose. Donc oui, des fois, moi, quand je montre le dessin, même s'ils essayent, je n'invente rien, je dessine d'après photo, mais forcément, c'est mon regard quand même. Et puis, il y a un regard artistique posé dessus. Donc forcément, les gens vont se voir autrement. Et oui, je pense que ça peut, les aider ou non.
Et justement, Marine, je me posais la question émotionnellement pour toi, en tant que femme, en tant qu'artiste, de recevoir ces histoires, ces témoignages. C'est aussi une blessure parfois importante que ces personnes te livrent. Est-ce que ça te donne plutôt de la force, de l'élan, ou est-ce que c'est parfois compliqué de ton côté?
Oui, alors effectivement, c'est vrai que ce n'est pas forcément des sujets très joyeux. Après, effectivement, des fois, ce n'est pas forcément ça. Bon, il faut savoir que moi, derrière aussi, je continue mon suivi. J'ai un suivi avec une psychologue qui est super. Et effectivement, des fois, on fait des séances dédiées à mon travail. Parce que ça me permet, un peu comme une supervision en fait, ça me permet aussi de me détacher parce que forcément, bon, moi, je peux avoir tendance à être un peu une éponge et à m'imprégner de ça. Et c'est vrai que des fois, quand je reçois des centaines de témoignages qui parlent, par exemple, de sexisme, d'agression sexuelle ou de viol, j'ai envie de tout casser. Parce que je me dis, waouh, enfin, c'est pas forcément joyeux. Mais en même temps, je reçois aussi des témoignages qui donnent de l'espoir. Voilà. Des témoignages de personnes qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi, oui, effectivement, à s'apaiser. Bon, des fois, c'est pas forcément ce que je poste, parce que bon, oui, des fois, il n'y a pas que des happy ends, et j'ai pas envie de poster que des témoignages d'happy ends, et encore une fois, parce que ça pourrait aussi complexer des personnes qui, eux, n'ont pas réussi, voilà, à être apaisées par rapport à leur histoire. Mais derrière, en off, quand je discute avec des gens, quand, en message privé, quand des personnes me racontent des choses, enfin, oui, il y a de l'espoir quand même. Enfin, sinon, je le ferais plus. Enfin, sinon, je crois que je serais dans mon lit, je pourrais plus bouger. Oui, je parle de sujets pas joyeux. C'est vrai que la conférence, quand on en parle, bah oui, c'est des sujets quand même qui sont, voilà, on parle quand même de discrimination et d'oppression. Mais en même temps, moi, ce qui me donne de la force, c'est de voir ces personnes qui m'écoutent, ces personnes qui hochent la tête, et ces personnes qui se confient et en fait, se rendent compte que bah on n'est pas seul en fait, qu'on est plein malheureusement à avoir vécu ça, mais en même temps que maintenant, on essaye de faire bouger les choses. Et ça, c'est une lueur d'espoir et c'est ça qui me permet de continuer, d'avancer aussi. Et je trouve ça génial, en fait. Maintenant, on n'a plus peur, on a moins peur de parler des agressions sexuelles, on a moins peur des personnes racisées, osent de plus en plus, effectivement, dire non, ça, c'est pas OK, en fait. Ça, c'est un comportement raciste qu'on a eu envers moi et j'ai pas à subir ça. Voilà, donc toutes ces choses, en fait, me donnent de l'espoir. Voilà.
Et alors, je me suis posé une question, tu reçois ces témoignages, mais est-ce que tu reçois également des retours sur le projet Semeuse en lui-même ou même sur les conférences que tu donnes? Quel est ton sentiment concernant le chemin encore à parcourir? Est-ce que pour les gens, c'est une découverte ou est-ce que les choses sont déjà un peu acquises parmi les gens qui t'écoutent ou qui te suivent?
Oui, alors, plus positif que négatif. Après, j'ai été interviewée pour un podcast d'une amie et effectivement, je disais que j'ai de la chance. C'est de la chance parce que je suis pas beaucoup harcelée, voilà. Mais en fait, c'est pas vraiment de la chance, ça devrait être normal, en fait. Enfin, mais oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, on sait que c'est violent, surtout quand on a une femme qui milite pour ce type de choses, c'est d'autant plus violent. Voilà, le cyberharcèlement, ça touche d'autant plus les femmes et on a su que ça a augmenté, c'est énorme, en fait, le nombre de cyberharcèlement depuis surtout le Covid, envers les femmes. Mais oui, moi, j'ai surtout des retours positifs. Après, par exemple, il est arrivé quelque chose de super avec cette conférence là qui s'est passée à la librairie Aime-Lire le 15. C'est qu'il y a, un homme qui m'a contacté et qui m'a dit que, ce n'est pas du tout mon travail, hein, il a dit que lui, effectivement, par exemple, il a une calvitie et que c'est quelque chose dont on ne parle pas et que moi, je ne parle pas. Effectivement, je n'ai jamais eu de témoignage d'hommes qui ont une calvitie. Et pourtant, on sait que c'est énorme. Le nombre d'hommes en fait qui perdent leurs cheveux en fait et que c'est un tabou, c'est quelque chose d'un peu qui complexe et qu'on fait pas mal de blagues dessus. Et ben ça, je trouve ça génial. Enfin, ça me touche énormément que cette personne elle fasse confiance et elle me parle de ça et qu'elle me dise ok, moi je me suis pas sentie représentée. Allons-y en fait. Et cette personne m'a envoyé une photo et je vais la dessiner bientôt. Et si elle se sentait pas capable de m'envoyer une photo, c'est pas grave. Maintenant, je sais qu'effectivement j'ai oublié ça.
Et justement, Marine, si des auditoristes parmi nous s'identifient à ton projet, sont touchés par ton projet, se sentent concernés, comment est-ce qu'on fait pour te contacter pour un dessin ou même pour te livrer un témoignage? Je crois que tu as donc un site internet, mais il y a également les réseaux sociaux.
Oui, effectivement. Alors en fait, il faut savoir, mon site internet, c'est www.semeuse.com. Et du coup, semeuse, c'est S-E-U-M-E-U-S-E. C'est le seum. Le seum, c'est la colère. En fait, c'est cette idée de semer des graines et me servir de cette colère en fait pour de la recycler pour semer des graines effectivement montrer toute cette diversité pour lutter contre ces discriminations. Donc c'est semme semeuse. Voilà, c'est le semme la colère et du coup sur Instagram c'est semme S-E-U-M-E-U-S-E. Et sur mon site internet, bon, il n'est pas tout à fait à jour, mais il y a quand même cette page qui s'appelle « Se faire dessiner ». Et tout est expliqué, voilà, comment faire les photos, comment, enfin, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le mail. Il y a aussi le formulaire de témoignage qui est disponible sur une page du site, où là, bah, tout est expliqué, voilà, et on écrit en quelques lignes. Et faut pas hésiter aussi à m'envoyer des messages privés, par exemple, pour me dire, bah, je sais pas écrire, ou je sais pas trop comment, j'aimerais parler de ça, mais je sais pas trop comment faire. Pas de souci. Moi, j'ai des questions génériques, en fait, que j'ai créées, que je peux envoyer, on peut en discuter. Voilà. Bon, des fois, je peux mettre un petit peu de temps. Et bien sûr, encore une fois, c'est bien expliqué, malheureusement, je peux pas tout partager, je peux pas dessiner tout le monde, parce que, bon, voilà, je fais ce travail bénévolement et que ça me prend énormément de temps. Mais quand je me suis engagée à faire une personne, même si des fois ça prend plusieurs mois, voire même des fois un an, je le fais. Voilà. Quand je me suis engagée, quand je dis à la personne « je te dessine », c'est que je vais la dessiner. Malheureusement, oui, comme c'est un projet associatif et bénévole, ça peut prendre un peu de temps. Voilà.
Et pour ceux qui auraient manqué ta dernière conférence à Émire le 15 février, il y a possibilité de venir te revoir puisque tu refais une conférence le 20 mars à l'Hôtel de Ville de Laval.
Oui, ce sera exactement la même. Bon, je change toujours un petit peu, hein, j'essaie de l'améliorer. Mais effectivement, la conférence La place du corps dans la société, je vais la donner du coup dans le cadre du mois de l'égalité là, organisé par la ville de Laval. Et du coup, je vais faire ma conférence à l'Hôtel de Ville, donc le 20 mars. Et je vais aussi exposer des dessins. Donc là, il y en a déjà une partie à Émire, mais il y en aura encore plus à l'Hôtel de Ville. Et du coup, ce sera, alors on n'a pas encore calé exactement la date, mais il me semble que ça paraît le 18 mars. Vous pourrez voir pendant 2 semaines les dessins, voilà, mes dessins, et donc les portraits bah, de vous, hein, en fait, hein, voilà, des décors de la vraie vie, des vraies personnes qui existent, du coup, à l'Hôtel de Ville. Je suis extrêmement contente voilà, qu'on m'ait proposé ça. Enfin, je trouve ça très chouette voilà, que ce soit quand même dans un lieu emblématique comme ça, et c'est, voilà, de se dire voilà, que tous ces corps aussi ont la place à la mairie. dans un lieu de l'espace public voilà, qui dit quand même quelque chose de fort, qui est un lieu bah, politique voilà. Et donc de remettre le corps dans sa dimension politique parce que c'est important.
En tout cas, merci beaucoup Marine d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir partagé ce beau projet, ce MUSE que tu as créé. Merci encore.
Oui, mais merci à toi et merci à tous ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à me contacter.
Le vendredi, j'ai toujours les yeux qui se baladent dans les programmations du week-end ou de la semaine à venir. Alors je ne peux que vous inciter à sortir vos agendas. On commence à Sablé-sur-Sarthe avec le théâtre L'Entracte ce soir. Ce jour, la pièce de Don Juan, mise en scène par David Bobet au Quai d'Angers, mais l'affiche complète. Alors regardons plutôt ce qui se passe le 28 février à 15h. La compagnie Fais pas ci, fais pas ça vous propose un conte musical avec le spectacle Mioba. Et Mioba, en fait, c'est un éléphanto qui grandit sur les plaines du Kilimandjaro. Les années passent et aux côtés des plus grands, elle cherche peu à peu à comprendre les liens que l'homme entretient avec la nature sauvage. Vous allez découvrir sur scène un conte sensible et délicat en voyageant au cœur de l'Afrique. C'est une belle promesse, une bulle de douceur et de tendresse qui vous attend pour ces vacances scolaires. Si vous aimez le jazz, que vous n'avez rien de prévu ce soir, eh bien rendez-vous rue du Vieux Saint-Louis à Laval au 6x4 pour la soirée New French Touch avec le groupe Ishkero, qui est décrit par Jazz Magazine comme l'une des formations les plus captivantes de la jeune scène jazz parisienne. Leur concert sera suivi de celui de Léon Fall, un saxophoniste franco-suisse. Il a sorti son 3e album Stress Killer en septembre, dans lequel le groupe poursuit sa quête d'un jazz moderne et résolument groove, avec toujours une place importante à l'improvisation. L'agité du local rend l'antenne. Merci à Marine Goyer du projet Semeuse d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à vous, amis auditoristes, d'avoir été à notre écoute tout au long de cette émission. L'agité laisse la place à de très beaux programmes. Par exemple, votre soirée commence à 19h avec cette émission qui nous ramène un peu en arrière et pas n'importe comment, puisqu'on vous prend par la main ou par les sentiments avec des morceaux du passé qui vous font du bien. Vous le savez, c'est Dance Hall Social Club qui commence votre week-end à 19h. Et comme j'ai envie de jeter un œil avec vous sur la programmation du week-end quand même, avant de partir, je peux vous dire que ça s'annonce pas mal puisque samedi à 10h, vous écouterez Un Autre Regard. L'émission s'invite au groupe d'entraide Mutuelle Bleue à Laval qui accueille des personnes qui présentent un trouble du spectre autistique. Arnaud leur a tendu son micro. À 11h, vous écouterez Lettres de Gaza et pour ne pas changer les bonnes habitudes, votre après-midi sera musical. et même plutôt rock avec Rock Dreams et Rock à la Casbah. On vous propose un dimanche plutôt sportif à 11h avec Sport Épique, interview, quiz, chronique, débat, enfin de la bonne humeur, surtout comme d'habitude avec Benoît et son équipe. Et pour terminer ce week-end, on aperçoit une lueur à l'horizon avec les allumeurs de Réverbère qui nous parlent de résistance d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Moi je vous laisse sur ces belles perspectives, on se retrouve lundi, même heure, même rendez-vous, comme ça on est certain de ne pas se rater. D'ici là, profitez des bonnes choses, prenez-vous dans les bras, profitez du week-end, vous l'attendiez, je le sais bien. Enfin, vous me comprenez, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.